France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain dans une France sans gouvernement. François Bayrou doit présenter sa démission au président de la République dans une demi-heure.
J'en pense que la France va très mal. Pour le coup, elle est vraiment là très mal et qu'il faut qu'il y ait du changement.
Après avoir qui vont mettre d'autres, ça c'est la question.
Où va la France ?
Parole recueillie ce matin à Côtebec, les Elbeuf, au sud de Rouen, où nous nous trouvons pour écouter comment les Français vivent cette nouvelle crise politique entre lassitude et colère. Certains vont participer au mouvement Bloquons tout demain. Nous les écouterons. Nous verrons aussi comment les maires, les associations, les entreprises se préparent à cette période d'instabilité.
C'est énormément de temps perdu, ce qui ne nous a pas aidés, puisqu'on est obligé à chaque fois de représenter le dossier, de réexpliquer pourquoi on se bat. Ça ne nous décourage pas, c'est juste que c'est de l'emploi qui pour l'instant n'est pas encore formalisé et c'est tout ce qu'on souhaite.
Tout cela avec nos invités et nos reportages, avec également l'actualité de cette matinée. Bonjour Flore Catala.
Bonjour à tous.
À commencer par ces têtes de cochons retrouvées ce matin devant des mosquées d'Île-de-France.
Oui, à Paris également, une action visiblement d'ampleur qui suscite indignation, incompréhension et condamnation. Une enquête pour provocation à la haine est ouverte. L'actualité, c'est aussi 1 million d'habitants qui se préparent à nouveau à fuir de la ville de Gaza. Après une semonce de plus d'Israël, les Gazaouis rassemblent encore une fois de ce qui leur reste en urgence, vous l'entendrez. Et puis c'est un grand bond pour l'intelligence artificielle française, mais un tout petit pas comparé au géant de l'IA dans le monde. La start-up Mistral, valorisée à près de 12 milliards d'euros, devient un poids lourd européen, mais reste loin de concurrencer au-delà du continent.
Et puis juste avant 14h, le cirque comme lien social ici dans les quartiers, ce sera notre clin d'œil. Nous serons tout près d'ici à Elbeuf. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Côtebec, les Elbeuf, 10 000 habitants, sa place de la mairie, voilà notre studio du jour, en plein air et sous le soleil dans cette commune populaire. Nous sommes au sud de Rouen, 35% d'ouvriers, des halles en construction juste devant moi pour abriter le marché, c'est le vendredi et le dimanche matin ici à Côtebec, et une église, particularité sur cette église, on peut lire l'inscription, liberté, égalité, fraternité, c'est très rare en France et c'est le symbole d'une époque durant laquelle la République devait s'affirmer jusque sur les bâtiments religieux. La République aujourd'hui est secouée par cette nouvelle crise politique. François Bayrou, le Premier ministre, s'apprête à présenter sa démission au président. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Service politique de France Inter, ça doit se passer dans une demi-heure, Julien.
Oui, c'est prévu pour 13h30 finalement à l'Elysée, dans la stricte application de l'article 50 de la Constitution. Avant ça, François Bayrou a passé l'essentiel de sa matinée dans son bureau à Matignon pour rédiger sa lettre de démission. Donc ça, en général, ça tient en quelques mots. Pour passer ses dernières consignes aussi, il a par exemple demandé à ses équipes de préparer un dossier par thématique pour le futur Premier ministre, avec dans chaque dossier trois parties: urgence, sujet à avoir en tête et sujet déjà traité. L'idée, c'est bien sûr de rendre la transition la plus fluide possible. Avant de quitter Matignon, enfin, François Bayrou a aussi signé et publié ce matin ses derniers décrets, publiés donc au journal officiel. Ils concernent tous la transition écologique pour modifier les modalités de MaPrimeRénov' ou, par exemple, pour instaurer une TVA réduite sur les panneaux solaires à partir du 1er octobre.
Merci Julien Nenni, on va vous retrouver dans quelques minutes pour parler de la suite. Arrêtons-nous d'abord sur la réception de cette information sur le terrain. Comment a-t-elle été accueillie ce matin par ces mères de famille que j'ai rencontrées devant l'école Victor Hugo et à qui j'ai appris la nouvelle?
Ah, il a été enfin retiré?
Bah, c'est cool.
Il faudrait se poser la question pourquoi il y a autant de changements de ministre.
Vous avez une explication?
Peut-être le président, au revoir.
Il n'a pas l'air de vouloir partir.
Non. Je pense qu'il est bien où il est.
Je pense qu'on est beaucoup à attendre ça.
Que Emmanuel Macron parte?
Ouais, exactement.
Il n'a pas du tout les pieds sur terre et il n'écoute pas son peuple.
On n'a plus la même vie qu'avant, quoi. Tout ce qui est relatif aux Français ou...
Donc vous voudriez quoi, une nouvelle élection présidentielle?
Oui, je pense. Désolé, il y a mon fils qui part.
Pardon, il est en quelle classe?
CP.
Quand je vois qu'ils veulent supprimer des jours fériés alors qu'on n'a déjà pas beaucoup de... Enfin, moi, je suis une femme de ménage, je travaille du lundi au samedi, c'est compliqué. Mon conjoint, il est cariste, il fait 15h, 22h le soir.
Là, vous avez travaillé cette nuit?
Oui, j'ai commencé à 3h ce matin, donc je m'arrange encore pour qu'on récupère mon fils, enfin, c'est tout un bazar.
Toute une organisation?
Voilà.
Qu'est-ce qui récupère votre fils ce soir?
C'est sa marraine, parce que j'ai pas trop les moyens d'embaucher une nourrice. Bah, on travaille, mais tout augmente, sauf que nos salaires, ils augmentent pas.
précision, il n'y avait que des mères de famille ce matin pour déposer les enfants. Je n'ai pas vu de papa. Bonjour Laurent Bonnater.
Bonjour.
Vous êtes le maire Horizon de Côtebec-les-Elbeuf, élu en 2014, réélu en 2020. Merci de nous accueillir. Avant de parler du président de la République, un gouvernement renversé, c'est le deuxième en moins d'un an. Ça va faire 5 premiers ministres en 3 ans. Ça change quoi concrètement pour vous, le maire ?
Merci d'avoir choisi Côtebec et une ville qui travaille et qui a envie de continuer à travailler. L'absence de Premier ministre, ça change tout et ça change rien. Ça change tout parce que les gens sont inquiets, les entreprises sont inquiètes, vous allez avoir des chefs d'entreprise tout à l'heure avec vous. Plus personne ne voit de cap, on ne sait plus où on va et donc l'incertitude, c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour ceux qui investissent, c'est mauvais pour ceux qui se projettent. Et puis ça crée de l'incertitude, incertitude économique et incertitude culturelle aussi chez nos habitants qui est très forte. Et puis ça change rien parce que les services de l'État sont là, le préfet est venu à Côtebec voir ce beau projet de halle couverte derrière nous il y a quelques jours. Et on sait qu'en proximité, avec les services de l'État, avec la région, avec le département, avec la métropole, avec l'ensemble des partenaires, on va continuer à bosser. Il y aura évidemment des incertitudes nationales, on va parler des dispositifs financiers. Mais globalement quand même, et heureusement, la République, son administration, elle tienne.
Comment on en sort ? On a entendu ces habitantes de Côtebec dire, franchement, beaucoup d'entre elles me l'ont dit, il faut que le président de la République parte. Est-ce que c'est la solution pour vous, vous qui appartenez au parti de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe ?
La pression sur le président de la République, elle est immense. Le fait que deux premiers ministres aient échoué coup sur coup, ça l'affaiblit énormément. Moi, j'ai un regard assez critique. Je suis beaucoup au contact de mes concitoyens. Je sais ce rejet du président de la République. Est-ce qu'il a fait des choses au début de ses premiers mandats ? Oui, évidemment. Est-ce que depuis sa propre réélection et ses législatives, la première qui était ratée et la dissolution qui était aussi ratée, puisque personne n'a compris où allait cette dissolution, à quoi elle servait ? Quel est le cap ? J'y reviens, il est incertain et flou. Moi, je suis maire, je ne demanderai pas à quelqu'un de mettre fin à son mandat. Il a été élu pour 5 ans. Mais le fait que nos concitoyens mettent la pression sur le président de la République et lui demandent de tirer les conséquences de ses actes, ça ne me surprend pas du tout.
Et cela a des conséquences sur le terrain, pour les associations, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés. On va en parler ici en direct de Côtebec, les Elbeufs. On va se retrouver dans une quinzaine de minutes avec d'autres invités autour de la table de France Inter. Avant cela, avec vous, Flore Catala, toute l'actualité de ce mardi, avec donc d'abord la découverte de ces 9 têtes de cochon ce matin devant des mosquées en Ile-de-France.
Oui, retrouvées à Montreuil, à Montrouge, à Malakoff et dans 3 quartiers parisiens. Une action visiblement perpétrée par plusieurs individus en même temps, selon le préfet de police de Paris. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Une enquête est donc ouverte.
Oui, pour provocation à la haine aggravée par la discrimination religieuse. Ces têtes de cochon, animal considéré comme impur dans l'islam, ont été découvertes tôt ce matin devant 4 mosquées à Paris, 15e, 18e, 20e arrondissement et 5 en proche banlieue. Des caméras de vidéosurveillance ont pu filmer un ou des auteurs, c'est encore flou. Elles sont en cours d'analyse. Il n'est pas exclu que d'autres têtes de porc soient retrouvées, selon les dernières précisions apportées il y a quelques instants par Laurent Nunez. Une action d'une telle ampleur interroge, explique le préfet de police de Paris. On ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec des actions précédentes qui se sont avérées être des actions d'ingérence étrangère, commande-t-il. D'autant, précise le parquet de Paris, qui regroupe désormais l'enquête dans la capitale et la petite couronne, le parquet de Paris qui précise que sur l'un des lieux, le mot Macron a été retrouvé peint en bleu. Des têtes de cochon ont déjà été déposées devant le local d'une association musulmane l'an dernier dans le Pas-de-Calais ou encore sur le chantier d'une mosquée en Dordogne en 2019.
Delphine Evenou, service police-justice d'Inter. Ces actes anti-musulmans sont lâches et inacceptables, a déclaré Jonathan Arfi, le président du CRIF. Indignation aussi du côté de Bruno Retailleau qui parle de profanation. Le ministre de l'Intérieur qui s'est également exprimé sur le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. La date est marquée depuis bien longtemps d'une croix dans les calendriers. C'est demain, mobilisation à laquelle se préparent ceux qui comptent manifester, mais aussi les services de sécurité sur le pont pour anticiper les actions, les blocages et les éventuels débordements de ce mouvement aux nombreux visages. Une centaine de milliers de personnes attendues pour cette mobilisation et autour de 80 000 policiers et gendarmes déployé, Bruno Retailleau qui a détaillé ce matin le dispositif de sécurité.
Dès ce soir, il faudra occuper le terrain sur des zones sensibles pour ne supporter évidemment aucune sorte de violence ni de blocage. Le dispositif, on a fait le point, il est absolument massif. Il comprendra pratiquement 80 000 policiers, gendarmes, pour qu'on puisse prévoir notamment face à des groupuscules qui sont peu nombreux, mais qui sont très déterminés, qui sont très organisés, qui sont très très aguerris et qui cherchent la violence. et qui sont animés d'une haine anti-flic. Donc il s'agit de prévoir des dispositifs qui soient robustes.
Bloquons tout, qui intervient aussi dans un contexte d'instabilité politique qui n'arrange rien. On en parlait alors que le Premier ministre doit remettre sa démission d'ici une trentaine de minutes au président de la République. Et maintenant, c'est l'après Bayrou qui se prépare. Qui pour prendre sa suite à Matignon ? Emmanuel Macron a dit vouloir nommer un successeur rapidement, dans les tout prochains jours. Mais il y a aussi la question des sièges vacants laissés par les ministres démissionnaires. Julien Nenny, vous êtes toujours avec nous.
Rebonjour.
C'est reparti pour un tour donc de casting à Matignon et dans les ministères.
Oui, dans tous les cabinets ministériels, chacun est suspendu à la décision du chef de l'État. Son choix n'est pas encore fait, assurait encore ce matin un conseiller du président. Emmanuel Macron hésite en réalité entre deux profils très différents. Un proche, issu de son camp, avec une solide expérience de l'Assemblée. Dans ce cas, les noms de Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sont les plus cités. Ou alors, une personnalité en dehors du jeu politique depuis des années, avec d'autres réseaux et une expérience dans le monde des affaires, sans qu'un nom ne ressorte pour le moment. Le futur Premier ministre devra ensuite rapidement construire son gouvernement. Et là encore, les campagnes plus ou moins discrètes ont déjà commencé en coulisses. Tous les ministres démissionnaires, ou presque, se verraient bien y rester, comme d'habitude. Bruno Retailleau à l'intérieur, Elisabeth Borne à l'éducation, Annie Genevard à l'agriculture, Valérie Létard au logement. Tous plaident la nécessaire stabilité pour mieux traiter leur dossier.
Merci Julien Nenny, service politique de France Inter. Un point d'interrogation sur le prochain nom choisi pour Matignon, qui forcément crée des remous chez les principales forces politiques qui veulent jouer des coudes pour se faire une place au gouvernement. Au sein des partis, l'heure est à la stratégie et à dresser des plans de bataille pour la suite, notamment à gauche, où des réunions sont prévues aujourd'hui pour s'entendre entre socialistes, écologistes, insoumis et autres. Laurence Perron, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Ça discute, ça échange à gauche, mais pour l'heure, il n'y a pas de ligne commune qui se dégage.
Pas du tout. Oui, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon en tête ont été très clairs. Pas question de refaire le nouveau Front populaire avec des partis qui nous ont insultés. Tout doit d'abord partir du programme. Les contre-budgets du PS et des écologistes ne vont pas assez loin, selon eux. Pour autant, LFI voterait-elle contre la confiance à un gouvernement de gauche PS et écologiste ? Ceux qui s'affairent en coulisses ne le croient pas. Une prise de langue des chefs de groupe est prévue cet après-midi à l'Assemblée, mais les socialistes eux-mêmes expliquent qu'elle n'a pour but que de parler du fonctionnement de l'Assemblée et des renouvellements de présidence. Quant à la proposition de Gabriel Attal sur la nomination d'un négociateur, pour tous, il en est hors de question. Le préalable, c'est le cadre et la ligne. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre de gauche et ce sera lui le conciliateur. L'hypothèse est hautement improbable, raison pour laquelle les Insoumis continuent de taper sur le clou de la destitution. Ils ont relancé les signatures pour y aboutir. Et chez les écologistes, l'idée commence à faire son chemin. Marine Tondelier l'avait évoqué lors de son discours de rentrée. Si le président s'entête, il n'est pas exclu de réclamer sa tête.
Laurence Perron, en direct avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques entre tractations en coulisses, interrogations sur l'identité du prochain Premier ministre et gouvernement démissionnaire. La France vit comme un air de déjà-vu et revu, une fois de plus, plongée dans l'incertitude, l'instabilité, le flou politique, ce qui n'est pas sans inquiéter à l'étranger, chez nos voisins européens. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Strasbourg, au siège du Parlement européen, où les eurodéputés voient d'un œil soucieux ce scénario qui se répète encore une fois en France.
Oui, l'instabilité politique les préoccupe, comme en témoignent les eurodéputés français qui se retrouvent depuis ce matin assaillis de questions par leurs collègues européens, sans forcément avoir en revanche toutes les réponses. Marie Toussaint, par exemple, pour la délégation française des écologistes.
On a des questions des collègues européens, mais que va-t-il se passer maintenant ? À quoi nous sommes contraints de répondre ? Nous ne savons pas, ce sera la surprise. C'est vraiment de l'instabilité, et évidemment, ce n'est pas bon pour la France, pour sa réputation, pour ses relations avec les autres pays, et ce n'est pas non plus bon, et ça c'est malheureux, pour son poids dans les décisions prises par l'Union européenne.
Beaucoup de questionnements aussi dans les rangs macronistes, comme en témoigne l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne sur le rôle moteur qu'occupe traditionnellement la France dans la construction européenne.
Mes collègues, dès hier soir, m'interrogeaient sur la suite, parce qu'on attend que la dynamique portée par le président de la République continue à être là. Quand j'échange avec mes collègues allemands ou mes collègues italiens, ils me disent « on a besoin d'une stabilité politique en France pour pouvoir être fort sur la scène internationale ».
Quel que soit leur bord politique, chaque eurodéputé a son avis sur la crise politique en France, certains plaidant pour une coalition gouvernementale autour d'Emmanuel Macron la plus large possible, quand d'autres, au contraire, jugent son départ inéluctable.
Fabien Cazot en direct du siège du Parlement européen à Strasbourg. Sa projection annulée avait suscité une vive polémique au cœur de l'été à Noisy-le-Sec. Le film Barbie est reprogrammé ce soir dans la commune de Seine-Saint-Denis. Annonce de la mairie, forcée début août de faire une croix sur la projection en plein air du long métrage de Greta Gerwig en raison de pression exercée par certains habitants, remontée contre ce film qui, selon eux, fait l'apologie de l'homosexualité et porte atteinte à l'intégrité de la femme. Une nouvelle sommation d'évacuation dans la ville de Gaza. L'armée israélienne annonce renforcer son offensive avec, je cite, une puissance accrue dans un secteur de l'enclave palestinienne où se massent déjà des milliers de réfugiés qui manquent de tout et qui pourtant vont devoir à nouveau fuir et abandonner le peu qu'il leur reste. Notre correspondant en Israël, Thibault Lefebvre, a contacté un confrère palestinien, Rami Al-Maghari, concerné par cet ordre d'évacuation et qui doit quitter la ville dans les prochaines heures.
C'est la deuxième fois que Rami Al-Maghari doit tout quitter.
Cette fois, c'est beaucoup plus stressant.
La première, c'était en janvier dernier, quand le journaliste est remonté d'Al-Maghazi à 15 km au sud avec toute sa famille pour s'installer dans sa maison de l'ouest de la ville de Gaza. Depuis quelques jours, les valises sont prêtes, il va donc y retourner. Le départ est prévu cet après-midi.
C'est beaucoup plus stressant dans une façon que je devrais.
C'est bien plus stressant parce que je dois prendre l'intégralité de mes affaires, parce qu'il pourrait y avoir des pillages. La maison peut être détruite aussi par l'artillerie israélienne. Je peux dire que je suis chanceux d'avoir une autre maison à Al-Maghazi, parce qu'il est très compliqué de trouver un endroit au centre ou au sud de Gaza. Il n'y a pas de place et quand vous trouvez une maison à louer, les prix explosent.
500 euros la tente, 1500 euros mensuels minimum pour louer un toit en dur. L'armée israélienne impose de nouveaux déplacements à 1 million d'habitants de Gaza. Elle estime que 100 000 sont déjà partis. Si le plan de l'État hébreu va au bout, ce sont 2 millions de Palestiniens qui devront survivre sur moins de 20% du territoire.
Et alors qu'Israël accentue la pression sur Gaza, dans le même temps, le ton monte contre les pays qui prévoient de reconnaître l'État de Palestine. Ça nuirait à la stabilité régionale. Et ça récompense le Hamas pour le massacre du 7 octobre, a affirmé le ministre israélien des Affaires étrangères à quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU. Les chefs d'État, dont Emmanuel Macron, ont prévu d'officialiser cette reconnaissance. Plus de 20 morts dans un bombardement aérien russe dans l'est de l'Ukraine sur un village de la région de Donetsk. 20 civils tués, a indiqué ce matin le président ukrainien, qui dénonce une frappe sauvage dans un message sur les réseaux sociaux accompagné d'une vidéo montrant des corps à terre. Et puis le Parlement népalais incendié par des manifestants en colère dans la capitale Katmandou. Réaction après la démission du Premier ministre du pays suite à des manifestations meurtrières qui ont fait 19 morts. Quand une start-up française devient poids lourd de l'intelligence artificielle en Europe, l'entreprise Mistral AI vaut désormais 11,7 milliards d'euros grâce notamment à un investissement du groupe néerlandais des technologies ASML. C'est la plus importante valorisation d'une entreprise de la tech en Europe et c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'elle n'a pas eu besoin d'aller chercher ses principaux actionnaires bien loin. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Flore.
Et oui, ils sont tous européens ces actionnaires.
Et oui, jusqu'à maintenant, pour financer sa croissance ultra rapide, Mistral avait largement fait appel aux investisseurs de la Silicon Valley, à tel point que certains se demandaient si c'était encore une start-up européenne. La réponse tombe aujourd'hui avec cette arrivée au capital du Hollandais ASML qui devient le premier actionnaire de Mistral après les trois fondateurs français de la start-up. Plus que jamais, Mistral joue donc la carte de l'Europe, ses 60% de ses revenus, et celle de la souveraineté numérique qui est dans l'ADN même de la start-up, selon Tristan Nitto du cabinet de conseil en numérique Octo.
L'approche de Mistral, c'est qu'ils offrent la possibilité aux entreprises de faire tourner les modèles de Mistral sur les serveurs de l'entreprise pour que les données ne sortent pas du périmètre de l'entreprise. Et donc le fait que ça soit un investisseur qui est européen, ça conforte cette position souveraine, c'est raccord avec leur modèle d'affaires.
Mais est-ce que ça veut dire, Stéphane, que Mistral pourrait désormais aller jusqu'à concurrencer, par exemple, le géant ChatGPT ?
Oui et non. Oui, car ces modèles obtiennent de très bons résultats face à leurs concurrents chinois ou américains. Les ingénieurs de Mistral mènent toujours cette bataille-là. Non, car Mistral est pénalisé par sa petite taille. OpenAI vaut 30 fois plus, Anthropic 15 fois plus, et le chat de Mistral a perdu la bataille de l'usage, écrasé par le mastodonte ChatGPT. Sans doute que son avenir ne se joue plus là, mais dans les serveurs des entreprises et en Europe.
Merci Stéphane Jourdain. Et puis un médicament anti-Alzheimer retoqué par la Haute Autorité de Santé en France, le Leqembi, très attendu, mais très loin de plaire à tout le monde. Il montre une efficacité modeste et un profil de tolérance préoccupant, estime la HSS, qui refuse donc une procédure d'approbation accélérée de ce traitement. France Inter, il est 13h19, presque 13h20, le temps de retourner à Côte-Bec-les-Elbeufs, où vous êtes toujours, Jérôme.
Exactement, Flore, au sud de Rouen, on va se retrouver dans un instant pour ce 13-14 spécial sur le terrain au lendemain du vote de défiance contre François Bayrou, et alors qu'on attend dans les prochaines minutes qu'il ne remette sa démission à Emmanuel Macron. On va suivre évidemment cette actualité politique qui s'écrit en direct sur France Inter, et puis on parlait avec tous nos invités ici sur le terrain en Normandie. À tout de suite.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est ce qui est plus vert et offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire. En ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre jusqu'à 100 euros pour la souscription d'une nouvelle offre ELEC Référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire ? Appelez le 3443. Service et appel gratuit. Montant total obtenu au bout d'un an sauf résiliation du contrat. Offre électricité éligible et conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
France Inter, partenaire de Art, la pièce culte de Yasmina Reza avec Olivier Broche, François Morel et Olivier Saladin au Théâtre Montparnasse. Trois vieux amis sont devant le tableau blanc que l'un d'eux vient d'acheter car il est amateur d'art.
Tu n'as pas acheté ce tableau 40 000 euros ?
J'étais sûr que tu passerais à côté.
Tu as acheté cette merde 40 000 euros.
Art, actuellement au Théâtre Montparnasse, un spectacle France Inter.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Le temps de votre après-midi, c'est avec Élodie Calac. Bonjour Élodie.
Bonjour à tous.
Encore quelques averses dans l'Est et de nouvelles pluies sur la Bretagne.
Oui, alors des Pyrénées aux régions de l'Est, on a encore pas mal de nuages, quelques averses, mais aussi des éclaircies qui reviennent, hein, sauf près des Pyrénées où ça reste humide. C'est du soleil du Roussillon à l'ouest de la Provence. Sur les Alpes et la Corse, quelques averses, parfois un orage. Ça va se dégrader en Corse la nuit prochaine avec des pluies orageuses soutenues qui persisteront d'ailleurs demain matin. Ailleurs, c'est plutôt bien ensoleillé. Alors ça devient tout de même plus nuageux des Pays de la Loire au Cotentin cet après-midi. Une nouvelle perturbation apporte des pluies parfois orageuses et du vent sur la Bretagne. Elle arrosera les régions de l'ouest demain. Les températures, elles sont globalement de saison. Alors 18 degrés à Brest, 23 à Lille, Paris, Mulhouse et Bourges, 23 aussi à Côte-Bec-les-Elbeufs, 24 à Lyon, à Bordeaux, 28 degrés à Marseille et 29 à Ajaccio.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Côte-Bec-les-Elbeufs, donc 10 000 habitants en Seine-Maritime, au sud de Rouen, tout près de la Seine, sous le soleil normand. On a même ouvert notre parasol pour être à l'abri dans ce 13-14. Vous le savez, dans ce rendez-vous de la mi-journée, nous aimons venir à votre rencontre le plus souvent possible, vous donner la parole. Ce sera le cas encore tout au long de cette saison. Et donc ici en Normandie aujourd'hui, alors que le Premier ministre François Bayrou doit présenter sa démission à Emmanuel Macron dans les prochaines minutes et au lendemain de ce vote de confiance qu'il a donc perdu et largement à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus voir sur le terrain ce que ça changeait pour les élus, pour les associations, pour les entreprises. Nous donnerons aussi la parole à tous ceux qui vont participer demain au mouvement Bloquons Tout. Vous verrez qu'ils ont des profils assez variés. J'en ai rencontré quelques-uns ces dernières heures à Rouen hier soir où ils célébraient le départ de François Bayrou, mais aussi tout simplement ce matin dans la rue ici à Côtebec, les Elbeuf. Nous ont rejoint sur la place de la mairie où nous sommes installés deux chefs d'entreprise qui font la vie locale ici de Côtebec. Damien Pitard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes patron de la miroiterie Elbeuvienne.
C'est ça.
C'est écrit sur votre suite. 8 salariés, c'est ça Damien. Vous étiez salarié. Vous êtes devenu patron.
Exactement.
Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous.
Bah, ce qui s'est passé pour moi, c'est un peu une évolution de carrière. Je suis parti de rien. Apprentissage. J'ai fait mes armes en tant que poseur. J'ai fait une partie commerciale pendant 3 ans. Et puis, arrivé un jour, et bah, faut sauter le pas. La vente de la boîte s'est précisée en 2024. C'était la suite logique un petit peu. C'est pareil. Donc, mes anciens collègues sont devenus mes salariés. Et voilà, chose pas facile au départ, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Et puis voilà, on a de beaux projets pour la suite. Mais si on arrive à avoir une stabilité dans nos métiers.
On va en parler ensemble. Sylviane Carrier avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Si vous venez un jour acheter des fleurs à Côtebec-les-Elbeuf, vous avez des chances de faire la connaissance de Sylviane qui, avec sa fille, tient deux magasins de fleurs ici et dans
son... Et à Elbeuf. 900 mètres, un
juste
kilomètre.
Juste à côté. Combien de salariés?
10.
10 salariés.
4 salariés et 5 apprentis. Là, je suis arrivée à 9. Là,
genre. Vous donnez un coup de main à votre fille, en fait?
Oui. Mais à temps plein, pratiquement.
Donc c'est un gros coup de main.
Oui.
Bon. La situation politique, vous avez suivi hier la chute de François Bayrou.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire de l'inquiétude pour l'avenir, hein, parce qu'on ne peut pas trop se projeter. Bon, si vous voulez, nous, on s'est installés en 2016, hein, donc ça fait 9 ans. J'avoue que si, à cette époque-là, si je voyais la France telle qu'elle est aujourd'hui, on n'aurait pas acheté. On a beaucoup investi parce que bon, on s'est installé, on a repris un fonds, on a déménagé en 2019. On est parti à 300 mètres puisqu'on a eu l'opportunité d'être dans un rond-point. Bon, on a un chiffre d'affaires qui a beaucoup évolué. En 2021, monsieur le maire de Côtebec voulait un fleuriste. Bon, on a.
Vous êtes arrivé ici.
On est arrivé ici.
Donc ça marche.
Ça marche, mais alors, si vous voulez, en 9 ans, là, j'ai pris un peu de recul, enfin de statistiques. Il y avait 10 fleuristes hein, sur l'agglomération, hein, sur Côtebec, Elbeuf, Saint-Pierre et Saint-Aubin. Aujourd'hui, il y en a 6, il y en a 4 de moins.
Peut-être les gens achètent leurs fleurs ailleurs aussi.
Achètent leurs fleurs, puis on tient le cap peut-être parce que les autres ont fermé.
Qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation politique?
Il y a les grandes surfaces, il y a Internet, même avec les fleurs, les gens reçoivent des fleurs par colis.
Qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation politique? Pas de gouvernement aujourd'hui et bientôt un 5e Premier ministre en 3 ans.
Écoutez, c'est là. Alors, je ne fais pas de politique, mais bon, la cohérence, je pense qu'il faudrait que tout le monde essaye de discuter ensemble et pour sauver la France un peu par rapport à l'international. Parce que bon, déjà, dans chaque parti politique, ils ne s'entendent pas, alors comment voulez-vous que ça fonctionne?
Damien Pitard, vous dites, j'espère que mon activité qui fonctionne bien, il faut le dire aussi quand ça marche.
Ça marche.
Ça fonctionne. On peut être apprenti en France et devenir patron.
Exactement.
Mais qu'est-ce qui vous préoccupe dans la situation à venir ?
Moi, ce qui me préoccupe, en fait, nous, on travaille beaucoup dans le secteur de l'énergie. On a travaillé beaucoup avec les aides de l'État. Et ce qui me préoccupe... tout ce qui est ANA, enfin, tout ce qui gravite autour de ça.
Ouais.
Et il y a plein d'incohérences. C'est la croix et la bannière pour monter les dossiers. Les gens prennent peur. Et les remboursements, des fois, ne suivent pas. Et font aussi, des fois, capoter les entreprises. Donc, on a beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, du coup, elle a été gelée début d'été. Là, elle va repartir sous quelles conditions?
À la fin du mois, avec de nouvelles conditions.
Sous quelles conditions, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il faudrait une ligne constante et qu'on puisse aider tout le monde dans leur rénovation énergétique dans le secteur de la miroiterie ou autre. Quoi.
Arnaud Haquet, vous êtes constitutionnaliste, vous êtes professeur de droit public, vice-président de l'Université de Rouen. Merci de nous avoir rejoints. Que vous inspirent les préoccupations, mais aussi l'engagement de Damien et de Sylviane, qui sont au boulot, mais qui se disent, voilà, la France, avec cette situation politique, est fragilisée.
Ce sont des préoccupations qui rejoignent les miennes, même si ça peut vous paraître un peu étonnant. Je m'intéresse plutôt aux institutions politiques, aux mécanismes constitutionnels. Donc, ce qui me frappe, c'est évidemment la situation de la France depuis disons 2 ans, et notamment depuis la dissolution. Une motion de censure, c'est la deuxième sous la Ve République. Une question de confiance qui, pour la première fois sous la Ve, aboutit à la démission du Premier ministre. Une situation qui paraît être une situation de crise politique, mais de crise parlementaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est peu fréquent sous la Ve République. Ce qui est vraiment préoccupant, et c'est pour ça que le mot de crise politique doit être pris...
On l'emploie souvent.
Ouais,
mais là, il faut vraiment l'employer.
Il faut y faire attention parce que, très clairement, il y a désormais un décalage entre le rythme de la vie démocratique et le rythme de la vie parlementaire. Depuis la dissolution de 2024, comme vous l'avez dit, les premiers ministres se succèdent, des gouvernements qui semblent souvent être des gouvernements de transition se succèdent. L'an passé, on a eu du mal à faire adopter un budget, une loi de finances spéciale, puis un budget. Ça pourrait se reproduire cette année. Durant cette période, les citoyens, qui eux ont d'abord pour préoccupation de faire en sorte que la vie économique et sociale se déroule correctement, eux, non seulement on leur fait part de toutes sortes d'angoisses, la question de l'endettement, la question des tensions avec la Russie, la question de la stagnation économique. Donc toute la journée, on leur dit que rien ne va. Et en même temps, ceux qui dénoncent cette situation semblent avoir des préoccupations qui sont très orientées sur l'élection présidentielle qui aura lieu dans
donc un décalage
mois.
Entre le discours de gravité et puis les actes sur les
Il y a un moment donné, il va falloir réaligner les deux parce que sinon, on va avoir de grosses difficultés démocratiques.
Je voudrais vous saluer. Merci Sylviane Carrier d'être passée par le plateau de France Inter aujourd'hui. La fleuriste de Côte-Bec-les-Elbeuf. Merci également à Damien Pitard. Je vous laisse retourner au boulot. Vous n'en manquez pas. Aujourd'hui, c'est la miroiterie elbeuvienne. Pour rebondir sur vos constats, Damien et Sylviane, je voudrais accueillir Guillaume Penel. Bonjour.
Bonjour à vous.
Président du groupe des élus Rassemblement National au Conseil régional de Normandie. Laurent Bonnataire, toujours avec nous. Prenez un micro. Maire de Côte-Bec-les-Elbeufs. Rebonjour Laurent Bonnataire. On vous a entendu tout à l'heure à 13h. Pour rebondir sur ce que Damien et Sylviane pouvaient dire, je lisais dans le journal Les Échos. La semaine dernière, une analyse d'Éric Le Boucher qui titrait son papier « La politique est morte, la France doit faire sans ». Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent Bonnataire ? Est-ce que les Français qui sont autour de nous, là, ils sont plusieurs dizaines à venir assister à cette émission à Côte-Bec-les-Elbeufs, ils doivent faire sans la politique aujourd'hui ?
Alors moi, ce que je vis tous les jours, c'est la politique locale, des élus locaux, des maires, des conseils municipaux, des adjoints, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques, et nos concitoyens. Ils savent nous trouver, ils sont heureux de nous trouver et ils ont besoin de nous parce que on est la première réponse quand l'administration se bloque, quand le système est un peu obscur. Ça arrive que la technocratie perde des gens en route et donc la politique locale elle sert à ça. Donc j'espère que sur ce plan-là, et d'ailleurs les études d'opinion le montrent, les maires sont encore des élus très respectés par leurs concitoyens. C'est un peu moins vrai dans les grandes villes où l'envie de dégagisme et la tentation de changer de maire est beaucoup plus forte. Quand on regarde les études d'opinion, on voit que plus la ville est grande, plus les gens ont envie de se débarrasser de leur maire. Dans une ville de 10 000 habitants comme Côte-Bec, on sent cette proximité et cette habitude d'aller vers les élus locaux, quelle que soit votre sensibilité, pour résoudre vos problèmes. Parce que le responsable politique, étymologiquement, c'est celui qui apporte des réponses. Respondere en latin, il faut apporter des réponses. Et qu'elles soient positives ou négatives, c'est parfois compliqué. Des fois on dit non, des fois on explique pourquoi on dit non. Après, la désespérance et la grande fatigue démocratique au niveau national, je la sens extrêmement forte, et l'envie de nos concitoyens de mettre un grand coup de pied aux fesses à tous les dirigeants nationaux, sous réserve de ceux qui n'ont pas encore testé mais qui feront peut-être pas mieux demain, je la sens très fort.
Transition pour Guillaume Pénel. Sylviane, qui était à votre place il y a une minute, nous disait qu'ils ne se mettent pas d'accord, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, et de fait, hier, les députés Rassemblement National, comme les députés de gauche, ont voté la défiance envers François Bayrou. Il n'y a pas d'accord possible au plan national, Guillaume
Pénel. C'est difficile, ils arrivent, vous le voyez, à la tête de l'État, eux-mêmes, à ne pas s'entendre. Hein. On voit toutes les discussions qu'il y a au sein du bloc central, qui n'est pas un bloc. Nous, on a une majorité, effectivement, de Français qui nous soutiennent. Quand on regarde les instituts de sondage, on s'aperçoit que énormément de Français, plus d'un tiers, en fait, sont prêts à rejoindre les candidats du Rassemblement National, et justement à faire en sorte qu'on ait une politique stable. Parce que le seul mouvement politique, c'est le Rassemblement National, avec ses alliés, notamment nos amis de l'UDR aujourd'hui, qui peuvent avoir une majorité.
Parti d'Éric Ciotti.
Tout à fait. Une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous appelons de nos voeux cette dissolution de l'Assemblée nationale pour obtenir cette fameuse majorité absolue. Car sans majorité absolue, ou alors à quelques sièges près, eh bien on n'arriverait pas à avoir cette stabilité. J'entendais tout à l'heure les acteurs économiques, locaux, mais de partout en France, ont besoin de stabilité. Alors moi, nous pensons que c'est actuellement le Rassemblement national, autour d'un Premier ministre fort, d'une majorité stable à l'Assemblée nationale, et encore soutenue par une très forte majorité de Français, si on en croit les instituts de sondage, qui peuvent justement apporter de la stabilité. De la stabilité sur le plan de la démocratie, sur le plan des institutions, car on sait ce qui va se produire là, dans les semaines ou les mois prochaines, c'est-à-dire qu'on va de nouveau vers une crise parlementaire, on va de nouveau probablement vers une motion de censure, et on verra que même les dirigeants qui vont succéder à M. Bayrou ne s'entendront pas.
Je précise que vous avez été candidat l'an dernier aux élections législatives ici, que vous avez été battu dans la circonscription par la candidate insoumise, mais que vous êtes arrivé en tête ici.
C'est une tradition dans l'agglomération d'Elbeuf.
52-47.
Tout à fait, je sais qu'effectivement, la sociologie de Côte-Bec, mais pas seulement, hein, les communes alentours sont des électeurs fidèles au Rassemblement National. Donc dans cette circonscription-là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Je crois que la prochaine fois, c'est le Rassemblement National.
Oui. Laurent Bonnater, la France va tourner avec ses administrations dans les prochaines semaines. Quels vont être, vous qui êtes maire de cette commune de 10 000 habitants, vos interlocuteurs ?
Ah ben oui, heureusement, hein, le préfet, les services de l'État,
la machine fonctionne.
Ben oui, heureusement. On l'a vu hein, dans les grandes crises, on l'a vu pendant le Covid. On a quand même un pays extrêmement organisé. Alors on sait bien parfois les défauts de l'organisation. J'ai beaucoup tendance à fustiger la technocratie lorsqu'elle est trop obscure et trop paperassière, administrative, y compris pour nous, hein, parce que pour les élus locaux c'est parfois l'enfer pour résoudre un dossier qui peut paraître simple, mais quand même ça permet de tenir le pays. Après, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, et notamment par votre invité constitutionnaliste.
Arnaud Aquet.
L'inquiétude nationale, l'inquiétude internationale, Trump, l'Ukraine, plaquée sur une classe politique nationale dont on ne sait pas quelle est sa réponse aux enjeux du quotidien, et dont on voit bien que 2027 ou la dissolution, en tout cas les intérêts partisans immédiats sont premiers, ça pose un vrai hiatus démocratique entre les aspirations profondes de nos habitants, leurs doutes, leurs craintes et la confiance qu'ils font dans leurs élus, confiance qui est aujourd'hui très 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 entamée.
Relative et très faible.
Et très entamée.
Vous venez sur le contexte international, Laurent Bonnater, je voudrais qu'on parle des conséquences économiques de cette instabilité. On en a parlé tout à l'heure, j'allais dire, au niveau des petites entreprises, hein, 6-8 salariés, miroiterie, fleuriste. Avec vous, Jérôme Val. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
On va changer d'échelle, reporter au service politique de France Inter. Vous avez sillonné ce territoire ces dernières heures. Vous nous emmenez à quelques kilomètres de Côte-Bec. La papeterie de La Chapelle d'Arblay. Nous sommes à Grand Couronne. Alors cette papeterie est fermée depuis 5 ans et pourtant un projet de reprise existe sur place. Il ne manque plus que la garantie de l'État qui n'arrive toujours pas, et avec les changements de gouvernement, le projet est dans l'impasse.
Oui, j'étais en effet hier matin sur ce site de 33 hectares entre la Seine et l'autoroute A13. Les cuves, les longs hangars sont toujours là. Des herbes hautes ont poussé sur le bitume des parkings. La papeterie a en effet définitivement fermé le 10 septembre 2020, il y a 5 ans pile. Mais l'espoir de la voir repartir est bien présent. Le terrain a été racheté par Veolia, un repreneur a été retrouvé. Un plan de reprise est donc sur la table avec l'État qui a promis de débloquer 27 millions d'euros. Julien Sénécal Mistral est l'ancien secrétaire du CSE.
C'est un prêt que l'État français accorde à l'industriel. Ça permet à l'industriel d'aller chercher d'autres banques pour investir sur le projet qui représente 270 millions. Ce qui est à la clé, voilà, c'est 170 emplois directs et à peu près 1000 emplois indirects.
Seulement voilà, depuis un an, tout ne se passe pas comme prévu à cause de la valse des gouvernements, des interlocuteurs qui changent, des décisions qui tardent, cette garantie de l'État qui n'arrive toujours pas. L'industriel, c'est le Canadien Fibre Excellence. Il a déjà donné un premier délai l'année dernière, un deuxième sursis jusqu'à cet été, mais peut-il encore attendre? C'est la question pour Cyril Briffaut avec la CGT, c'est lui qui pousse ce plan de reprise.
Le pire, c'est que l'industriel commence à vraiment en avoir assez. Ça fait 3 ans qu'il court après des réponses sur la reprise de la Chapelle d'Arblay. On peut imaginer qu'à un moment, ils se disent « vous voulez pas de nous, on se barre ». C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas attendre qu'enfin on se décide à renommer un ministre, que le ministre se décide à renommer ses conseillers et qu'on attende encore 2 mois, 3 mois que quelqu'un se décide à répondre à nos sollicitations pour qu'on puisse avancer sur le site.
Une situation politique qui bloque un projet plein d'espoir pour un territoire. Gérard a travaillé 42 ans à la papeterie.
Je suis découragé, on va dire. Normalement, la politique, c'est un travail. C'est un peu comme nous, quand on travaille, on doit obtenir des résultats pour pouvoir continuer de l'avant. Là, aujourd'hui, la politique, j'ai l'impression qu'on stagne, pour ne pas dire qu'on recule. Donc, je suis plutôt très découragé.
Alors, si l'État apporte enfin sa part d'ici la fin de l'année comme espéré, l'usine de la Chapelle d'Arblay pourrait redémarrer, mais pas avant 2028.
Merci Jérôme Val pour ce reportage. On va vous retrouver dans quelques minutes chez Renault à Cléon, tout près d'ici. C'est l'un des principaux employeurs du bassin ici autour de Rouen. Sujet avec cette papeterie qui me permet d'accueillir nos deux nouveaux invités. Jean-Yves Herman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'UIP CFDT à Rouen. Vous êtes infirmier en psychiatrie. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Sarah Balluet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du MEDEF du département de Seine-Maritime, Rouen Métropole Normandie. Vous êtes avocate spécialisée en droit social. Vous êtes également la présidente de l'association sportive Rouen Université Club. L'impact économique, c'est un dossier, je suppose, que vous connaissez, celui de la papeterie de la Chapelle d'Arblay. Sarah Balluet, est-ce que quand vous avez vu le vote hier, vous êtes dit, voilà, on va encore perdre des jours, peut-être des semaines pour tous ces projets?
Effectivement, ce qu'attendent les dirigeantes et les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est de la stabilité et de la prévisibilité. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on investit en général pas sur quelques semaines ou quelques mois, mais sur plusieurs années. Et quand on embauche, c'est un investissement aussi sur le capital humain, on embauche parfois en CDD, mais souvent en CDI, et donc à durée indéterminée. Et lorsqu'on ne peut pas se projeter sur 12, 14, 18 mois, c'est compliqué pour les entrepreneurs aujourd'hui. Donc cette instabilité, elle freine l'économie, elle freine l'emploi. Et donc les dirigeantes et dirigeants sont très inquiets.
Donc vous dites à Guillaume Pénel, à renverser le gouvernement, c'était peut-être pas une très bonne idée?
Alors je ne dis rien à Guillaume Pénel en particulier. Ce que je dis à tous les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, c'est que les dirigeantes et dirigeants politiques attendent de la stabilité, de la prévisibilité, pour avoir une vision pour la stabilité économique de demain. On ne peut pas aujourd'hui s'en sortir sans l'économie.
Guillaume Pénel, d'un mot, et puis Jean-Yves Herman, je vous donne la parole.
Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, le seul mouvement politique avec ses alliés aujourd'hui qui peut assurer cette stabilité à l'Assemblée nationale et soutenu par une très grande majorité de Français, c'est le Rassemblement national.
Même si votre vote hier, comme celui d'autres formations de gauche, amène aujourd'hui à cette situation sans gouvernement.
C'est déjà de l'instabilité. Ils nous repromettent de l'instabilité perpétuelle. Ces gens-là ont échoué, il ne faut pas l'oublier. Je pensais à la Chapelle d'Arblay. La Chapelle d'Arblay, ce sont des difficultés économiques qui ont été accrues par les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir, qui ont laissé en fait les industries française au total libre-change. La désindustrialisation de la France, on la connaît bien dans ce territoire. La vallée de la Seine a perdu des milliers d'emplois. Alors aujourd'hui, effectivement, on se retrouve effectivement avec un contexte industriel extrêmement difficile. On fera tout notre possible, partout où c'est possible, quand on sera à la tête de l'État, pour sauver au mieux ces entreprises.
Nos interlocuteurs tout à l'heure nous disaient, on voit le spectacle de ces dirigeants politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Jean-Yves Vermand, entre représentants salariés et des patrons, les accords, ils sont aussi difficiles à trouver. On l'a vu avec le conclave sur les retraites, où ça s'est terminé finalement entre la CFDT et le MEDEF notamment, par un non-accord.
C'est sûr que les relations avec le MEDEF, elles sont pas forcément tout le temps évidentes, mais si je reviens un petit peu sur les sujets que vous évoquiez, la Chapelle d'Arblay, c'est symptomatique de ce qui se passe dans l'industrie en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a des fleurons industriels que, et où le gouvernement ou le grand patronat Sonna, en fait, à un moment donné, délocalise pour des questions de rentabilité, soit actionnariale, soit par stratégie, hein, qu'on peut largement discutable. Après, on dit à ces sites, vous n'êtes pas rentable, et on dit aux salariés, merci, au revoir, vous ne servez plus à rien, vous n'êtes plus rentable, et on demande à l'État de venir mettre des pansements sur une jambe de bois. Vous nous expliquez, monsieur, que le Rassemblement National, c'est peut-être l'alternative. Bon, déjà, vous annoncez déjà 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Donc, bon, vous reprenez aussi, à un moment donné, les mêmes recettes que vos prédécesseurs, parce que vous dites que vous êtes différent, mais à un moment donné, moi je suis représentant d'une organisation syndicale, j'attire à un moment donné votre attention sur les salariés aujourd'hui, ce qu'ils veulent c'est boucler leur fin de mois et surtout arrêter de négocier avec leur banque les découverts autorisés enfin, et que vous savez que ce soit Bayrou ou quelqu'un d'autre qui prenne le pouvoir, c'est le système économique de ce pays-là qu'il faut changer. Ça fait 20 ans qu'on entend faut industrialiser, déjà arrêtons de délocaliser, arrêtons aussi ce principe d'actionnariat complètement fou, et à un moment donné, moi j'invite ma collègue du MEDEF, alors nous au niveau local on peut discuter, mais à un moment donné il faut que les partenaires
sociaux... Vous êtes venu vous saluer tout de suite il y a quelques minutes avant le début de cette émission.
Au niveau local, mais à un moment donné, que ce soit le MEDEF ou les organisations syndicales dont la mienne, nous avons un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est que la France, elle fonctionne, que la France du travail, elle fonctionne.
De ce point de vue-là, vous réjouissez du départ de François Bayrou ?
À titre personnel, oui. À titre syndical, que ce soit lui ou un autre, quelle politique sera menée dans les prochains jours ? C'est ça la vraie question.
Sarah Ballu, en un mot, et puis ensuite on va aller chez Renaud à Clion.
Oui, pour répondre à ce qui a été dit à l'instant, moi je partage votre avis sur le dialogue social, c'est quelque chose qui fonctionne bien en France. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle responsabilité.
Sur les retraites, il va falloir nous expliquer comment ça fonctionne bien.
Quand on parlait du dialogue social en entreprise, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en entreprise, les organisations syndicales, les organisations patronales, donc le dirigeant d'entreprise, se parlent. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel dirigeant politique a la même cote auprès de nos concitoyens qu'un dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, parce que la majorité des entreprises ne sont pas des grosses entreprises. Et donc, les salariés ont confiance en leurs dirigeants d'entreprise. Et pour maintenir cette confiance, il y a un dialogue de proximité qui se fait. Donc, c'est vrai que le MEDEF est particulièrement soucieux de ce dialogue social en entreprise avec les organisations syndicales.
Justement, parmi les principaux employés du secteur ici, il y a donc cette usine Renault à Clion, à quelques kilomètres, c'est de l'autre côté de la Seine. Elle fabrique des moteurs et des boîtes de vitesse pour les véhicules de la marque. Jérôme Vallon, vous retrouve, vous êtes rendu sur place. La direction a annoncé avant l'été un plan de développement, mais il y a beaucoup de craintes autour d'un recul d'activité. Ces craintes n'ont jamais été aussi vivaces.
Oui, parce que c'est un mastodonte, Renault Clion, longtemps considéré d'ailleurs comme la plus grosse usine automobile de France, mais aujourd'hui, c'est vrai, l'heure n'est plus vraiment à la fête pour le site qui a d'ailleurs été rebaptisé Ampère Cléon. Le nom de Renault a été effacé, d'où ses doutes, comme chez ce salarié qui travaille dans la maintenance.
Il n'y a rien qui s'améliore depuis des années, donc oui, forcément, je suis inquiet comme tout le monde. Moi, quand j'étais embauché en 92, on était 5005, là, on est plutôt sur 2006. Il y a des annonces quand ils embauchent 100 personnes, mais quand il y en a 200 qui partent, on ne dit pas.
Alors, moins de CDI, moins d'intérimaires aussi, 259 cet été, contre plus de 1900 en 2018. La direction, vous l'avez dit, a annoncé au printemps dernier ses projets pour Cléon, continuer la production d'un moteur thermique pour utilitaire et celle de moteurs électriques pour la R5 et la 4L, mais pas de quoi rassurer Dany, un ouvrier qui travaille sur les prototypes.
Quand je vois des futurs projets, des futurs ateliers qui sont en baisse de cadence, c'est impressionnant. On a des projets maintenant où on va acheter en Chine, on prend au moins cher. Je pense qu'on sera racheté, j'ai rien contre les Chinois, mais je pense qu'on sera racheté par les Chinois et on travaillera pour les Chinois.
Et certains syndicats pronostiquent même de leur côté la fermeture de l'usine d'ici 5 ans malgré les discours du groupe, on l'a entendu, mais aussi ceux des gouvernements successifs sur l'impératif, on en a parlé, de réindustrialisation. Mais il faut maintenant des preuves, insiste William Audou, c'est le secrétaire de la CGT à Cléon.
Il y a des paroles, de l'autre côté ce qu'on constate c'est exactement l'inverse. On alerte au plus haut lieu, on a même demandé là des rendez-vous au niveau européen pour parler de ce fameux moteur chinois. La question qu'on pose à la direction et qu'on a posée dans les instances, c'est qu'est-ce qu'on va fabriquer à Cléon ?
Bonjour, c'est pour le 10. Et la suite.
Alors hier, c'était distribution de tracts aux entrées de l'usine, mobilisation et appel à la grève dès demain dans le cadre du mouvement Bloquons Tout, puis le 18 septembre en attendant d'avoir de nouveaux interlocuteurs au gouvernement.
On va parler du mouvement Bloquons Tout dans quelques minutes. Merci Jérôme Val. Je voudrais d'abord vous faire réagir Laurent Bonnater, maire de Côte-Bec-les-Elbeufs. Des moteurs chinois moins chers donc pour ces véhicules Renault, moins chers que ceux qui sont faits tout près d'ici. Ça pose la question de la protection de nos industries, des taxes douanières vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est pas à l'échelle de la France.
Non,
non, ça pose clairement la question de comment s'organise l'Europe. Il y a des mastodontes économiques en face de nous, les États-Unis, dont on voit que leurs nouveaux dirigeants ne respectent plus rien et passent en force. La Chine, qui est une puissance massive, et l'Europe, elle est trop naïve, elle emmerde trop, excusez-moi l'expression, nos concitoyens sur des choses du quotidien où elle ne devrait pas être présente, et par contre, elle est trop naïve et pas assez organisée sur le plan économique. Moi, je suis un Européen convaincu, mais un Européen de la protection de l'Europe, de la puissance de l'Europe. C'est pas la France toute seule qui, malheureusement, ne cesse de baisser dans les classements, qui pourra faire face à ces nouveaux acteurs. Enfin, les États-Unis, c'est pas un nouvel acteur, mais la Chine, c'est un nouvel acteur très puissant, et donc on doit se protéger. Moi, je connais très bien le site de Renault Cléon. Il y a 21 ans, lorsque je suis arrivé m'installer à Québec, il y avait environ 8000 salariés. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 2000. Oui. Donc, vous voyez, alors évidemment, avec des process industriels qui ont changé, mais notre industrie automobile est violemment mise en difficulté en ce moment.
Jean-Yves Vermont pour la CFDT, Sarah Balluet pour le MEDEF, et puis ensuite, on va avancer et s'intéresser à ce mouvement de demain du 10.
Oui, Jean-Yves Vermont. Je peux abonder ce qui vient d'être dit, c'est qu'à un moment donné, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on met en concurrence déloyale nos salariés, là, notamment dans le secteur de l'automobile, à un moment donné, pour vendre, voilà, on nous dit des moteurs chinois, pour vendre des voitures à 35 ou 50 000 euros, mais quel salarié en France aujourd'hui peut les acheter ?
Peut se les payer, ouais. Sarah Balluet.
Oui, juste une remarque sur l'impact de la législation européenne. Moi, je vais vous donner un exemple très concret qui pénalise les entreprises et les salariés. Aujourd'hui, la législation française s'est mise en conformité avec la législation européenne sur les congés payés pendant les arrêts maladie. Allez expliquer aux petites entreprises que des salariés en arrêt maladie acquièrent des congés payés, alors même que d'autres qui travaillent ont le même nombre de jours de congés payés. Alors, ce qui peut s'entendre dans les grandes entreprises ne s'entend pas aujourd'hui dans les TPE, dans les PME. Et aujourd'hui, pour investir, les employeurs, les dirigeantes et dirigeants d'entreprises, ils préfèrent évidemment investir avec les salariés qui sont à leur côté. Et on a vu toutes les difficultés dans le dialogue social sur les négociations annuelles obligatoires, qui est un passage chaque année. Et quand les budgets, malheureusement, ils sont partis cette année dans les provisions pour congés payés pour les salariés qui étaient en arrêt maladie, eh bien les salariés qui travaillaient n'ont pas eu d'augmentation de salaire.
Merci à tous les deux, Sarah Balluet du MEDEF Seine-Maritime et Jean-Yves Vermont, UIP CFDT, ici en Normandie, alors que François Bayrou est arrivé à l'Elysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron. C'est tout chaud. Je voudrais qu'on parle du mouvement de demain, le mouvement du 10 qui est né après l'annonce de François Bayrou de ce plan d'économie, 44 milliards d'euros qui a finalement entraîné sa chute. Le mot d'ordre, bloquons tout. Nous étions hier soir avec l'équipe du 13-14 à Rouen, place des Emmurés, avec quelques-uns de ces bloqueurs qui célébraient la chute du gouvernement.
Moi, j'ai découvert ça en vacances, en fait, par Facebook. On s'engage le matin à aller faire des blocages sur différents ronds-points autour de Rouen. Et l'après-midi, une grande manifestation. À partir de 14h30, on démarrera tout près la CPAM. Et on fait un grand tour dans Rouen. Et le soir, une agora pour décider comment on continue le mouvement ou pas.
Il faut être aveugle pour ne pas la sentir, cette colère, dans le pays. Plusieurs couches sociales qui sont en train de baver. Les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, les classes moyennes s'appauvrissent, etc. Et puis rien ne marche dans ce pays. Ils sont en train de casser la santé, les gens s'entassent dans les couloirs des urgences, il y a de moins en moins de lits. Dans l'enseignement, c'est la même chose, de moins en moins d'enseignants, on n'arrive plus à recruter, on sabre sur le budget de l'écologie. Et les gens, on en marre.
C'est le deuxième gouvernement depuis les dernières élections législatives qui n'arrive pas à trouver de solution pour essayer d'équilibrer les comptes de la France. On veut faire subir la charge aux retraités et aux petites gens. La nouvelle Union populaire avait remporté les élections sans être majoritaire, mais elle aurait pu faire un gouvernement l'été dernier, que Emmanuel Macron n'a jamais voulu, n'a jamais été d'accord pour cette solution.
Là, bloquer tout, parce que là on entend l'appel à manifester mercredi, est-ce que vous irez ?
J'irai à la manifestation. Je ne serai pas sur un point de blocage, mais je suis solidaire des gens qui seront sur le point de blocage.
Voilà ce reportage hier à Rouen avec ses militants, beaucoup de militants mais pas uniquement, ils étaient 200 à peu près qui s'apprêtent à participer demain au mouvement Bloquons tout. Guillaume Pénel pour le Rassemblement National, vous n'appelez pas à participer à ce mouvement demain ?
Non, ce mouvement semblait partir d'un très bon sentiment fin août, et puis on voit que la LFI, l'extrême gauche violente, a repris la main sur ce mouvement. On entend des gens parfois aussi sincères qui s'inquiètent de la situation, mais je rappelle que la solution, ce n'est pas la violence. La solution, ce n'est pas de mobiliser 80 000 policiers.
Ils ne parlent pas de violence, les gens qu'on a entendus là.
Pas cela, mais on risque.
On va bloquer.
L'a entendu, effectivement. Bien sûr que je respecte le droit de manifester, ouais. Et on peut manifester, c'est pas le souci. Mais on voit bien que demain, il risque d'avoir des mouvements particulièrement violents. Et ça sera toujours les mêmes, les gens qui travaillent. Demain, c'est mercredi, les enfants qui vont aller à leurs activités sportives, à leurs activités ludiques et culturelles, qui risquent d'être pénalisés. Et moi, je leur dis un message. Il n'y a que les urnes et le retour aux urnes. La violence dans les rues servira toujours le pouvoir en place. Le pouvoir en place a besoin de l'agitation et de la violence. Il a peur des élections.
Et la manifestation simple ?
Manifestation simple, bien sûr, c'est un devoir, on la respecte pas.
Pour autant.
Malheureusement, elle a été phagocytée par la LFI et l'extrême gauche. Nous appelons encore une fois au retour aux urnes et à la dissolution.
Vous parlez de gens qui travaillent et qui ont des enfants. Précisément, ce matin, je suis allé devant l'école Victor Hugo, au moment où les parents d'élèves déposaient les enfants, et j'y ai croisé Alicia. Elle est commerciale, elle avait déposé sa fille ce matin, et elle se prépare depuis plusieurs semaines à ce mouvement.
On a tout prévu, on a retiré de l'argent pour demain, mercredi, ne pas consommer du tout en France. On est plusieurs amis, enfin on en a longuement discuté, et en effet tout le monde est d'accord sur ce point-là. Parce que la France va mal et que le pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, l'insécurité c'est une catastrophe, enfin voilà, on n'est plus du tout en phase avec avec ce que met en place le président. Parce que du coup, faut quand même, c'est quand même de la gestion, il y a le travail, enfin voilà, ça fait des jours quand même où on va pas travailler, donc ça fait des jours de perte. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir se mobiliser pour avancer.
Ça veut dire que demain, vous serez en grève ?
Exactement.
Je peux vous demander ce que vous faites comme travail ?
Je suis commercial pour les entreprises, okay. dans la mutualité.
Ok, donc demain, pas de...
Non, demain, pas de travail.
Votre conjoint aussi ?
Oui, exactement, qui travaille dans un gros groupe de l'énergie de France. Pareil, grève. On sera là derrière ce mouvement pour montrer aussi notre mécontentement sur cette situation en France.
Voilà le témoignage d'Alicia qui a retiré de l'argent. Ça, ce sont des nouveaux modes d'action. Mmh. Arnaud Haquet, vous qui êtes politologue, constitutionnaliste, ce sont des nouveaux modes d'action parce que le vote, au fond, n'est plus un exutoire. Les gens ont le sentiment de ne plus être entendus par leur vote.
On est dans une crise politique, donc il y a un problème de confiance. Et en fait, là, dans une crise de ce type, il y a un problème de confiance des citoyens par rapport à leurs représentants. Et je me demande s'il n'y a pas maintenant un problème de confiance entre les représentants et les citoyens. Les citoyens, eux, ils manifestent leur mécontentement par des révoltes, par des mouvements qui sont assez généralisés, avec des sujets de revendication qui sont divers. Bref, ils ont un problème général avec leurs représentants. Les représentants, eux, ils ont besoin de renouer le lien avec les citoyens. Alors, ça se fait par les élections, mais ça marche pas. C'est compliqué. Il faut d'autres procédés pour pouvoir se mettre en lien avec les citoyens. Et moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que il y a différents procédés de démocratie semi-directe qui existent juridiquement, que ce soit au niveau national ou au niveau local.
Par exemple ?
Le référendum national.
Ouais.
Le président de la République, lors de ses vœux en 2025, et qui s'exprimait sur cette question, avait dit qu'il y aurait une consultation des Français. C'est parce qu'il sentait ce besoin.
Référendum qui n'a plus été utilisé depuis 20 ans.
Oui, tout à fait, oui, parce que voilà, le dernier référendum a été négatif, alors on s'est dit, on ne veut pas créer de psychodrame, c'est trop compliqué, mais c'est une façon de donner la parole aux citoyens. Et les pays qui pratiquent le référendum, alors il n'y en a pas énormément, en fait, et il faut bien voir une chose, c'est que la fatigue démocratique, elle est là à travers le monde. Il ne faut pas nécessairement fustiger l'état de la France parce que la démocratie c'est difficile et que la France c'est un des pays démocratiques qui connaît des difficultés. Mais ceci dit, on voit que dans certains pays, comme alors on prend toujours l'exemple de la Suisse, mais on peut prendre l'exemple de l'Italie, de Taïwan, des États-Unis, les référendums sont couramment pratiqués et sur nombre de questions, il y a une vraie vie démocratique. Alors la vie démocratique, je pense qu'elle se fait plus facilement au niveau local pour différentes raisons. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais moi, là, vraiment, ce qui m'étonne, c'est qu'on a quand même institutionnellement des solutions qui ne sont
et
pas
qui
utilisées.
Ne sont pas utilisées et qui sont à notre disposition. Vous parlez, Arnaud Hacquet, de vie démocratique. Laurent Bonnater, on est quand même frappé en cette rentrée toujours du dynamisme des associations dans les communes. Ça aussi, c'est la vie démocratique. Il y a beaucoup de Français qui participent aux associations. Il y en a plusieurs dizaines sans doute dans votre commune. Hier soir, quand on est allé place des Emmurés à Rouen, juste à côté du rassemblement Blocontou, il y avait les Restos du Cœur qui étaient là, 200 personnes, ils distribuaient des sandwichs, c'est une association. Ça c'est un signe positif.
Mais bien sûr.
Ces associations qui sont debout, qui font tenir le pays aujourd'hui.
Et en vous accueillant aujourd'hui sur les publications que j'ai pu faire, je veux parler de ce qui tient le pays. On a parlé tout à l'heure de l'administration, des fonctionnaires qui tiennent le pays d'une certaine manière. Mais les bénévoles organisés dans les associations, qu'elles soient associations sportives, associations de loisirs, associations culturelles, c'est hyper important. Et moi, je veux leur rendre hommage. C'était d'ailleurs un des points forts du rapide de gouvernement Barnier, c'est qu'il avait mis l'accent sur l'engagement associatif. Et l'engagement associatif, il tient autour de peu de personnes, souvent des jeunes retraités ou des gens qui ont du temps. Et moi, je salue, là, il y a des jeunes professionnels qui ont repris récemment le club de judo de Côte-Bec. Eux, ils travaillent. C'est un engagement. En plus de leur boulot, c'est extrêmement compliqué et bravo à eux. Et s'ils n'étaient pas là, nos communes ne tourneraient pas.
En parlant d'engagement, avant de se quitter ici en direct de Côte-Bec, les Elbeufs, je voudrais qu'on parle de cirque. Pourquoi de cirque ici en Normandie, parce que tout près d'ici, il y a le pôle national des arts du cirque théâtre d'Elbeuf. On parlait à l'instant de ce qui fait tenir le pays. Ici, ce sont des artistes qui, dans le quartier du Puchot, encouragent la participation citoyenne autour de la culture. Cécile Vinex, qui est membre de la compagnie Caba, nous a envoyé ce message.
On a posé nos valises ici pour 15 jours. On est une douzaine en immersion dans un centre social. On donne des ateliers tous les soirs qui sont ouverts à tous et à toutes, qui mélangent du cirque, parce qu'on est avant tout artistes de cirque, mais aussi il y a des musiciens qui sont avec nous. Donc il y a une partie musique, on chante. Et on essaye aussi de recueillir le maximum de témoignages du quartier. Donc, ils nous racontent que des tours ont été détruites, que des bâtiments ont été construits, que des gens sont arrivés, que des gens sont partis, etc., etc. On les enregistre, on crée des petits montages avec leur voix qu'ils vont ensuite dire sur scène. On intègre aussi leur point de vue d'habitants, d'habitantes.
Et le spectacle qui s'est déroulé hier pour clôturer ces ateliers s'intitule « Parfois, il crie contre le vent ». Tout lien avec l'actualité serait bien évidemment fortuit. Merci à Éric Gérard, notre chargé de production à la technique ici à Côte-Bec-les-Elbeufs. Merci à Éric Audra et Benjamin Reyes, Cécilia Arbona, notre rédactrice en chef, Camille Poux-Jalaguier, notre chargée de programme. Merci à la municipalité et à tous les habitants de Côte-Bec de nous avoir chaleureusement répondu et accueillis depuis hier dans son école d'art graphique animée, Animea, pour tous ceux qui veulent faire carrière, les jeunes dans le dessin animé, vous savez où vous adresser. À suivre le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.